Chapitre 4. La vie au tribunal révolutionnaire. Depuis un mois déjà, Fouquier-Tinville a quitté le logement de la place Dauphine où il habitait jusqu'alors et occupe avec sa femme et ses deux jumeaux un appartement au palais même dans la Tournelle. On y monte par l'escalier de la tour Bombec. Quand on est parvenu au second étage, on se trouve dans un corridor prenant jour par deux fenêtres sur les toits des bâtiments qui enserrent la cour de Lamoignon. Au fond de ce corridor est une porte scellée, au-dessus de laquelle sont écrits ces mots « Grand criminel ». Derrière cette porte, ainsi qu'à l'étage supérieur, sont conservés les minutes et registres criminels depuis 1312. L'appartement concédé à Fouquier ouvre sur le corridor. Il comprend une antichambre, éclairée seulement par le couloir au moyen d'une cloison vitrée garnie de barreaux. On pénètre par là dans un salon donnant vue sur la Seine, contre la tour. Une chambre à coucher est à côté. La cuisine et la salle à manger sont à l'étage supérieur et au-dessus encore, dans les mansardes, se trouvent trois petites chambres à coucher, dont l'une sans jour. Fouquier est de la sorte chez lui au tribunal. À l'aube, il rôde dans les corridors, il va au greffe, au parquet, à son cabinet, dont les portes sont toujours ouvertes, surveille l'arrivée des employés, monte à la buvette où, dès 7h30 du matin, les jurés arrivent à l'ordre. C'est le moment des facéties, on cause du travail du jour. Ah, voilà des bougres qui seront bien travaillés. L'accusateur conseille les magistrats. Au sujet d'une fournée où doit être compris l'huissier Damiens, un beau parleur, quand il était quelque part, personne ne pouvait plus s'entendre, disait Fouquier, qui le connaissait bien. Il le recommande à Confinhal. Il y a parmi ces accusés des bavards, il faut leur serrer la botte. Tu ne les laisseras pas parler longtemps, surtout ce bavard Damiens, tu lui fermeras la bouche. Au beau jour, il se félicite. Les têtes tombent comme des ardoises. Il aime à vanter la façon dont il congédie les importuns. « Tu vois cette femme qui sort de chez moi. Elle ne cesse depuis longtemps de me tourmenter pour faire juger son mari. Eh bien, il sera dans la fournée d'aujourd'hui. Et voilà comment je sais me débarrasser des personnes qui sollicitent. » Un autre matin, il raconte que la veille, il a amadoué dans son cabinet jusqu'à 2 ou 3 heures un homme dont il a tiré des dénonciations et que, à peine était-il sorti, il l'a fait arrêter et traduire au tribunal. À 4 heures, ce particulier était parti avec les autres. Les jurés admirent et font chorus. Châtelet ne se déclare satisfait que si on lui donne 80 000 têtes. Prieur professe, peu importe que les accusés soient convaincus des faits qu'on leur reproche, si d'ailleurs ils sont nobles, prêtres, si enfin ils ne sont pas bons républicains, c'est un moyen de s'en débarrasser. Un naïf s'informant de ce que deviennent les condamnés à la déportation et regrettant qu'on expose pour eux des vaisseaux de la République à être pris par l'ennemi, tous éclatent de rire. Il est bon, exposer des vaisseaux. On embarquera les déportés aux îles Sainte-Marguerite et puis, à une demi-heure de là, ils boiront. Plusieurs jurés n'arrivent pas au tribunal avant 10 heures. Ce sont les gardes du corps de Robespierre, ceux qui, chaque matin, vont le chercher à la maison du Plais, rue Saint-Honoré, y déjeunent quelquefois, et, redoutant un attentat, accompagnent l'incorruptible jusqu'à la convention. L'escorte habituelle se compose des amis Fillon et Emery, logés près de la cour des Jacobins, de Gravier qui habite rue Saint-Honoré, numéro 355, à quelques pas de chez Duplay, de Garnier-Launay, Didier, Gérard, Nicolas, de tous les solides du tribunal de Fouquier-Tinville, et aussi l'épicier Loyer, qui demeure rue Saint-André-des-Arts, mais qui fournit la maison Duplay. La bonne qualité de ses marchandises lui a valu de passer juge à l'époque du 22 Prairial. Le luthier Renaudin est du cortège, et quelquefois Brochet, logé lui aussi rue Saint-André-des-Arts, dans la maison qu'occupe Billaud-Varenne. Ainsi, toujours on constate entre ces hommes, inconnus l'un de l'autre il y a quelques semaines, un groupement, une étroite union, et encore l'inféodation au maître, à qui leur façon d'agir ne déplaît point, puisqu'ils supportent de se montrer en leur compagnie et acceptent le secours de leurs bras. On a beaucoup admiré un mot de Duplay à Robespierre, interrogeant son hôte sur ce qui se passait au tribunal. Maximilien, riposta l'intègre menuisier, je n'ai jamais cherché à connaître ce que vous faites au comité de salut public. Robespierre, sans répliquer, lui serra affectueusement la main. Mais n'est-il pas mieux renseigné par son ancien secrétaire Didier, ou par son épicier Loyer, ou par son coiffeur Pigeot, ou par l'ancien bourreau Fillon, puisque cela ne le quitte guère et que l'un d'eux affirme qu'il le voit tous les jours? La camaraderie entre tous est si manifeste, leur influence si envahissante, qu'ils s'entraident l'un l'autre et placent leurs protégés. De cette affiliation est né un compérage constant. Les jurés ne se contraignent plus, ils vont à l'audience comme à une partie entre intimes où chacun est à l'aise et sait n'être pas épluché. Dès qu'on lui remet la liste des malheureux qui composent la fournée du jour, Châtelet griffonne un F en marge des noms, ce qui signifie « foutu ». Il passe le reste de l'audience à tracer sur son sous-main la caricature des accusés. Prieurs de synocie, des cochonneries, des petites bêtises. Un autre assimile, d'après leur tournure, ce qu'il juge à des cruchons de liqueur. Celui-là, c'est de l'anisette de Bordeaux. Celui-là, du parfait de Madame Enfou. Ils interpellent les accusés en ricanant, s'emportent s'ils répondent. « Tu as un frère aristocrate, dit le juge Girard à un prévenu. « Je n'ai point de frère. »« Eh bien, répliqua Girard furieux, si ce n'est toi ni ton frère, c'est au moins ton père. » Lorsqu'ils se retirent dans leur chambre pour délibérer, ils affectent l'insouciance la plus inattentive. On n'est plus au temps où ils s'effaraient d'avoir à prononcer un verdict de mort. « Moi, je suis convaincu d'avance, affirme Chrétien. » L'huissier Leclerc, chargé de disposer sur la table les pièces à décharge des accusés, est accueilli par ces mots. « Remporte ça, c'est tout vu. » Beaucoup d'ailleurs ne se donnent pas la peine de monter à leur salle. Ils attendent, en se promenant dans le corridor, pour rentrer à l'audience et voter la mort, que les accusés soient reconduits à la conciergerie. Le jouvenceau Sempronius Gracchus, de son vrai nom Vilate, nommé juré quoiqu'il n'ait pas 25 ans, est particulièrement facétieux. Cet élégant sybarite, bien en cour, il occupe aux Tuileries l'ancien appartement de la princesse de Lamballe, rôde par les couloirs du tribunal, un cure-dent à la bouche, sans daigner prendre part aux délibérations. Un jour que l'audience s'est prolongée, il lance ce mot. « Les accusés sont doublement convaincus. Voilà 4 heures et je n'ai pas dîné. Ils conspirent contre mon ventre. » Il est du reste sensible et déclare ne pouvoir se résoudre à tuer une mouche. Les plaisanteries d'ordinaire sont bien reçues. Il faut rire. À la fin d'une audience, 4 jurés entrent dans le cabinet de Fouquier, dont les portes ne sont jamais fermées, et annoncent qu'ils viennent d'expédier une nombreuse fournée. Fouquier demande de quoi les condamnés sont coupables. Cela égaie beaucoup. « Ma foi, disent les jurés, nous n'en savons rien, mais si tu es curieux de l'apprendre, tu peux courir après eux, les charrettes les emmènent. » Après l'audience, on se réunit à la buvette, au second étage du bâtiment neuf. Le tenancier du restaurant se nomme Morizan. Il est assisté de sa femme et de sa fille. Fouquier déjeune là chaque jour, vers 1h30, seul, à une petite table, dans le fond de la salle. Rarement il s'assied avec les juges et les jurés. Ceux-ci déjeunent à la buvette le matin et y reviennent dîner vers 4 heures. Ils sont sobres pour la plupart. Dumas et Coffinhal, ainsi que Girard, sont quelquefois, il est vrai, ivres dès le matin. Les autres boivent au déjeuner une carafe et le soir une bouteille de vin. Prieur ne veut que de l'eau. Vilate se fait servir du lait et Trinchard du café ou du chocolat. Parfois, quand la presse est grande, des accusés, escortés de gendarmes, prennent leur repas aux tables voisines de celles où mangent les magistrats. Leur dépense est portée au compte du tribunal. Fouquier ne s'enivre pas, mais il vient souvent à la buvette, non pour y séjourner longtemps, car il ne tient pas en place. À la première heure, il est debout, arpente son domaine. Du haut de la tour Bombec, contre laquelle il habite, il descend à la tournelle, court au parquet, avant que les employés soient arrivés, ouvre les cartons, prépare le travail, passe à son cabinet, houspille les huissiers et active les gendarmes. Dès qu'il est en mouvement, le tribunal s'anime, chacun s'empresse à la besogne, formidable. Au greffe, où les commis souvent passent la nuit, il faut copier les actes d'accusation en autant d'expéditions qu'il y a de juges et de jurés. Un peintre, l'écrivain, a succédé à Paris Fabricius dans l'emploi de greffier en chef. Il a sous ses ordres un monde de commis et d'expéditionnaires. Wolfe, Ducret, Tavernier, Ardouin, Goujon, Derbé, Filleul, Durand, Legris, Hervé, Contat, Hureau, Pem, Jean Fabre, Noirot. Ducret est le loustic de la bande. Il aime à faire des farces et singe Dumas lui-même. Legris est un neveu du vice-président Nolin qui lui a procuré cet emploi au tribunal. C'est un garçon peu bruyant, travailleur, modéré d'opinion, marié d'ailleurs et très rangé. Un matin vers 8 heures, comme Wolfe arrive au tribunal, il rencontre dans le couloir le juge Foucault, exultant de joie. « Sais-tu la nouvelle ?» dit Foucault. « Non, de quoi s'agit-il »« Legris vient d'être arrêté, il aura le cou coupé aujourd'hui. » Wolfe court au bureau. « C'est vrai, Legris, qui a quitté le tribunal la veille à 10 heures du soir, a été arrêté chez lui à minuit. Il est à la conciergerie et ses camarades sont occupés à copier son acte d'accusation pour lequel Fouquier ne s'est pas mis en frais, se contentant d'ajouter dans la marge quelques lignes de l'acte déjà prêt concernant les autres accusés qui doivent monter ce jour-là. Legris y est inculpé d'avoir surpris la confiance d'un tribunal qui punit les conspirateurs sans distinction, d'avoir prodigué dans les mois de mars, avril et mai 1792, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, les titres de duc et de duchesse à des infâmes conspirateurs, etc. Prétexte. Mais Fouquier s'ingénie de la sorte à stimuler le zèle de ses employés, et Nolin, d'ailleurs, emprisonné comme on l'a vu, n'est plus là pour prendre la défense de son protégé. On signifie à celui-ci à 9 heures son acte d'accusation, à 10 heures il paraît sur les gradins, à 2 heures il est condamné, à 4 heures il n'existe plus. Les jurés en sont ravis. Et Prieur, en se frottant les mains, parcourt les bureaux du greffe, où, le nez sur leur copie, travaillent sans relâche les employés terrorisés. « Eh bien, dit-il, ça marche. Allons, voici enfin le greffe entamé, le premier chaînon est dénoué, ça ira de suite. » Et Fouquier se promène à grands pas dans la salle, frappant sur les tables, criant à Hureau en manière de réprimande, « J'ai déjà fait guillotiner l'un de vous, vous y passerez tous si la besogne ne va pas mieux. » Quand il a de la sorte réconforté ses collaborateurs, l'accusateur public donne un coup d'œil à ses audiences. Les deux sections fonctionnent maintenant quotidiennement. Il n'y siège qu'irrégulièrement, laissant la besogne à ses substituts Gréboval et Liandon. Mais il les surveille, dit son mot, rentre à son cabinet, écrit des lettres, il en part de son officine plus de 80 par jour, passe chez son secrétaire, le Lièvre, auquel sont attachés 2 commis en chef, Château et Boutron, et qui occupe encore un expéditionnaire, Grillé. La correspondance du jour mise en train, Fouquier descend à son parquet où 10 copistes, sous la direction du secrétaire Poincaré, rédigent les assignations du lendemain en laissant en blanc le nom des accusés non encore désignés. Puis il passe aux huissiers, dont les commis préparent les procès-verbaux d'exécution, formules imprimées, rangées en pile sur leurs bureaux. Ils sont là 9 encore, Simon, Tavernier, Tirard, Boucher, Auvray, Eustache Napier, Deguenier, Tripier, Simonet, chargés du service des audiences, de l'appel des accusés, de la distribution des actes d'accusation dans la prison. C'est Deguenier qui habituellement remplit cet office. Il appelle cela le « journal du soir ». Les huissiers accompagnent encore les condamnés jusqu'à l'échafaud et parachèvent au retour les procès-verbaux d'exécution. Les ordres aux bourreaux pour les charrettes, les aides, le matériel nécessaire au supplice, Fouquier ne laisse le soin à personne. On voit dès midi Sanson flâner dans les couloirs, attendant les instructions du jour. L'accusateur public sait que celui-là est l'homme indispensable. Il est pour lui plein d'attention. Il sait aussi que Sanson a tant d'ouvrages qu'il se ruine, menace de renoncer à une place si chargée et si peu lucrative, car l'exécuteur n'a pas ici, comme en province, droit à la dépouille des suppliciés. On lui a laissé dans les premiers temps les 2 sous, mouchoirs, bottes et souliers, qu'il abandonnait à ses aides. Mais, vu l'importance grandissante de ce revenu, la République confisque le tout. Aussi les commis du bourreau, les 2 de Moret, le Gros et le Vasseur, s'adressent-ils à Fouquier-Tinville, faisant valoir que leurs habits se trouvent détruits en très peu de temps, malgré toutes les précautions, par le genre de travail qu'ils font. C'est alors que Fouquier sollicite le comité de salut public en faveur de la guillotine. Cette partie, écrit-il avec un dégoût assez inexplicable et qui touche à l'ingratitude, cette partie, toute désagréable qu'elle soit, méritant de ne pas être négligée à raison de son utilité. À sa requête, le comité se montre généreux et accorde 20 000 livres au bourreau pour solde d'avance faite en fourniture depuis l'installation du tribunal révolutionnaire. Sa tournée terminée, Fouquier monte à la buvette. C'est l'heure où les audiences finissent. Les jurés reparaissent et l'accusateur public s'informe des résultats du jour. Si la fournée n'est pas satisfaisante, il tempête. Ah, vous n'êtes point au pas. Il m'en faut 200 à 250 par semaine. Un jour que 6 ou 7 accusés sur 15 jugés à la salle Saint-Louis viennent d'être acquittés, il éclate. Foutre! Quels sont ces bougres de jurés-là? Donnez-moi la liste de leurs noms. Et il répète, qu'on me donne les noms de ces bougres-là, on ne peut compter sur rien avec ces gens-là. Voilà des affaires sûres qui nous pètent dans la main. D'autres fois, quand les audiences sont bonnes, il s'amadoue. La dernière décade n'a pas mal rendu. Il faut que celle-ci aille à 400, 450. Allons, mes bougres, il faut que cela marche. La semaine prochaine, j'en déculotterai 300 ou 400. Et sans s'attarder à la besogne acquise, il parle de celle du lendemain, annotant ses listes, pointant des noms. Ah, ce sera une tête de moins. Il parle de tuer comme d'une insignifiante formalité qu'il est indispensable de remplir. Un huissier, auquel il commande d'amener au tribunal la duchesse de Biron, revient de la prison en faisant remarquer qu'il y a 2 détenues de ce nom. Ah, c'est bon, répliqua Fouquier tranquillement, elles y monteront toutes les 2. Le lendemain, en effet, elles sont toutes les 2 exécutées. Vers la fin de l'après-midi, le mouvement dans les salles et les dépendances du tribunal devient intense. Le public, admis aux audiences, est toujours nombreux à l'heure des jugements. L'accès de la galerie des peintres lui est ouvert et il circule librement dans les dépendances de la Tournelle, au moins jusqu'au corps de garde des gendarmes installé dans la salle ronde de la Tour Bombec, l'ancienne buvette du Parlement, au bas des quelques marches qui montent au corridor du bâtiment vieux. Tous les locaux ouvrant sur la galerie des peintres, les pièces desservies par le corridor qui lui fait suite, aussi bien que l'étage supérieur du vieux bâtiment et de la tour Bombec, sont occupés par les services du tribunal, cabinet de juges, bureau des secrétaires, bureau des huissiers, des assignations, des témoins, des copistes, dépôts d'objets saisis sur les prisonniers. Plus loin, en serrant la grand chambre, sont les nombreux cabinets du greffe, du parquet, du président, des vice-présidents, de l'accusateur public, des substituts, des attachés, des expéditionnaires, des secrétaires, des copistes. La buvette, les huissiers, les gardiens, tous ceux qu'on appelle les officiers du tribunal, ce nombreux personnel va et vient sans cesse dans le corridor, seule artère de cet immense local où l'on pénètre uniquement par la galerie des peintres puisque sur la salle des pas perdus ne se trouve d'autre issue que celle réservée au public de la grande chambre. À ce mouvement enfiévré s'ajoute celui des gendarmes, des 2 compagnies spéciales attachées au service du tribunal, dont continuellement on aperçoit dans les couloirs, parmi les manteaux et les chapeaux noirs des juges, les habits bleus, les buffetteries jaunes et les bicornes à pompons. Ils amènent de la conciergerie à l'audience les accusés qui passent les uns très animés, les joues en feu, les yeux brillants, causant haut, affectant la fanfaronnade, les autres déjà moribonds, le front bas, les joues blêmes, le regard fixe d'épouvante, des femmes âgées qui, soutenues par 2 soldats, marchent en priant, les mains jointes, des jeunes filles en larmes, des nonnes placides, des ci-devant encore hautaines, des magistrats à cheveux blancs, toujours dignes. On se range pour faire place à la longue traînée que les habitués accueillent par des quolibets et des invectives. C'est un spectacle dont ils ne se lassent pas, plus attirant peut-être quand les malheureux passent de nouveau aux condamnés maintenant, les hébétés, ne comprenant pas, se laissant conduire par les gendarmes, sans protestation, sans plainte. À peine un gémissement, un sanglot, tandis que le lamentable groupe disparaît dans la noire spirale de pierre de la tour Bombec, redescend vers la conciergerie où les bourreaux attendent. Et déjà le couloir a repris son animation coutumière. Les jurés rient à la buvette, les juges regagnent leur cabinet où ils vont interroger ceux du lendemain. Ils marchent vite, l'air soucieux. Souvent, ils ont les larmes aux yeux qu'ils s'efforcent de rentrer, parfois surprises cependant. Les prévenus que les gendarmes amènent individuellement à l'interrogatoire, sortis de la conciergerie, sont affaiblis par le régime de la prison. Ils ont la barbe longue et sale, les vêtements couverts de brindilles de paille hachée dont se compose leur lit. Cette comparution devant le juge est une aubaine qui, pour une heure ou deux, soustrait le détenu au grouillement de la geôle. Ce vaste préau des hommes qu'encerrent tous les bâtiments du tribunal et que cerne la belle ordonnance du cloître gothique de Saint-Louis, ce vaste préau, vu de haut, ressemble à une fosse de fauve. Il y a au premier étage, à la rencontre du corridor et de la galerie des peintres, une petite fenêtre par laquelle le regard plonge à l'aise dans cette cuve d'agonisants. C'est par cette fenêtre que les huissiers appellent les prévenus à l'instruction. C'est par là aussi que Fouquier, qui ne se risque jamais à descendre dans la conciergerie, va explorer des yeux son domaine et épier ses prisonniers. Ils sont bien à lui et rien qu'à lui. Il est parvenu à exclure de la conciergerie tous les prévenus de droit commun pour n'y garder que ses justiciables. Ceux-ci la remplissent d'ailleurs au point que la place lui manque. De tous les points de la République, les comités révolutionnaires et les représentants en mission expédient à Fouquier de nouveaux pensionnaires. L'entassement est tel qu'on ne sait où les loger. Tous les cachots, dont les noms ont des relents d'argot, sont encombrés. La Paillerie, Bel Air, le Grand César, la Gaillotte, le Paradis, la Chambre du Noviciat, la Morgue, la Chambre des Mouchoirs, la Petite Anglaise. L'un des plus redoutés est Bombec, ne recevant l'air pur que par le dessous d'une galerie qui éloigne son entrée du jour direct. Les prisonniers y sont couchés dans des lits en forme de cercueil dont tous les pieds tendent à un même centre commun. Dans ces caveaux rampe une population étrange, dont une partie semble y être oubliée depuis plusieurs mois, tandis que l'autre se renouvelle presque quotidiennement. Beaucoup de nobles, d'ecclésiastiques, de militaires. Les Parisiens, qui sont nombreux, se retrouvent et fraternisent. Mais il y a aussi des provinciaux, des villageois même, harassés par un long voyage et qui ont l'air de naufragés. Un groupe de paysans du Mont-Blanc, après 22 jours de marche, n'y séjourne guère, et Fouquier le réclame pour l'échafaud. 20 pauvres femmes du Poitou sont étendues à côté de leurs maigres bagages et dorment sur le pavé. « Leur regard, dit un prisonnier qui les vit là, leur regard où ne se peint aucune intelligence du sort qui les menace, ressemble à ceux des bœufs entassés dans les marchés. Au moment où on les appelle pour le supplice, il faut arracher à l'une d'elles un enfant qu'elle nourrit, et la mère pousse des cris aigus qui épouvantent toute la prison. Le désordre est tel que des témoins amenés de province par la gendarmerie en compagnie des prévenus contre lesquels ils doivent déposer sont écroués avec eux à la prison. Longtemps après que les accusés ont comparu devant le tribunal, ces témoins qu'on a négligé d'entendre sont encore sous des verrous et réclament leur liberté. Le spectacle qu'il ne faut point manquer, c'est le passage des condamnés, descendant du tribunal et traversant le préau pour gagner le greffe où les bourreaux attendent. Des fenêtres de la buvette où les jurés se groupent pour voir, on n'en perd pas un incident. Dès que les gendarmes apparaissent aux grilles qui ferment sur la cour l'escalier Bombec, les prisonniers se massent avec une avidité sans pareille, anxieux de connaître le nombre de ceux qui vont mourir. Les voilà, les uns graves, marchent les yeux baissés. On en voit d'autres qui, essayant de rire, se passent la main sur le cou, pantomime expressive et rapide. Ceux qui restent font escorte en double haie à ceux qui partent. On se serre les mains, on s'embrasse. Malgré les gendarmes qui activent le défilé, les condamnés vident leur poche entre les mains des détenus, réclament de leur obligeance un dernier service, une dette à payer, une lettre à faire parvenir, un adieu aux êtres aimés. Ce sont des noms, des adresses indiquées à tout hasard, une dernière confidence dont on charge un ami de 3 jours ou même un inconnu. Ce sont des exhortations à ne pas faiblir, des gémissements, adieu, courage. Un jour, ces embrassements sont interrompus par des cris que jette un homme posté à l'une des fenêtres du greffe. C'est Fouquier. Cette scène le met hors de lui. Il trépigne, il montre du doigt un détenu qui a serré la main du condamné Nicolaï, le fils d'un ci-devant président de chambre au Parlement. C'est à cela surtout qu'il garde rancune. « Là, là, cet homme habillé de noir, renfermez-le, ordonne-t-il au guichetier. » Le prisonnier est mis au cachot de la tour Bombec. Fouquier fait prendre son nom, il s'appelle Louvatière. Le lendemain, il est guillotiné. Peu à peu, après cette tragédie quotidienne, le préau reprend son calme habituel. Dans les longs jours de l'été, les détenus s'y promènent jusqu'à 8 heures. Chacun y vit à sa guise. Du greffe, où les employés préparent les actes d'accusation du jour suivant, on perçoit le bourdonnement de ces vivants voués à une mort imminente. Les uns se recueillent pour prier, d'autres chantent. On chante beaucoup à la conciergerie. Les nouveaux venus sont ébahis de se trouver à pareille fête. Tant d'insouciance, tant de résignation, tant de gaieté même déconcertent ceux qui débarquent de leur province. Ces rires, en présence de la mort, leur semblent plus sinistres peut-être que les larmes. Le jour tombe. La voix des huissiers de Fouquier crie « Le journal du soir !» C'est la distribution des actes d'accusation à ceux qui doivent monter demain. Les chansons cessent, car chacun écoute si son nom est prononcé. Dès qu'un prisonnier entend le sien, il va à la grille de l'escalier Bombec, derrière lequel se tiennent les appeleurs. Il n'entre pas dans le préau et présente à travers les barreaux l'imprimé en l'accompagnant d'une facétie. « Tiens, voilà ta feuille de route, ton extrait mortuaire !» Tous ces subalternes ont pris dans la maison le ton du maître. C'est encore une scène qui vaut d'être vue. De la buvette où il remonte le soir, Fouquier la guette, sans mot dire. Il voit les malheureux parcourir avidement le feuillet pour connaître de quel crime ils sont accusés. Beaucoup se montrent rassurés. L'inculpation est la plupart du temps si vague, si ridicule. Quel juré oserait prononcer sur de telles bases une condamnation ? Si encore cela avait le sens commun, dit le vieux Malesherbes en recevant sa feuille. Certains, aveuglés jusqu'au dernier moment sur la justice du tribunal, gardent confiance, exposent à leurs camarades de cachot ce qu'ils diront pour leur défense. Un magistrat invoque le droit romain. Un autre, récemment arrivé de Toulouse, ricane, qui ne voudrait pas être à la place des juges et qu'il les embarrassera bien. Pauvres gens. Demain, dès qu'ils auront répondu à l'appel de leur nom, le classique « Tu n'as pas la parole » de Dumas ou le traditionnel « Assez causé » de Coffinhal les aura vite désillusionnés. En attendant, on se reprend à chanter. Du fond des cachots, ou sur un signal de la cloche du préau, les détenus sont renfermés quand la nuit est close, le bruit de leur rire, assourdi par l'épaisseur des murs, met encore une rumeur dans la cour déserte. La tradition exige que les habitants d'une même cellule régalent celui d'entre eux qui doit les quitter le lendemain pour paraître au tribunal. Il est bien rare que celui-là ne chante pas au dessert quelques vers de sa composition. On boit sec, on entonne le refrain, on discute, on se grise de paroles. Les guichetiers circulent faisant la ronde, portant des flambeaux. De gros chiens à la tâche hurlent lugubrement et l'on entend le gémissement régulier de la pompe du préau où, bien avant le jour, remplit des seaux Bergerat, le porteur d'eau de la prison. Au greffe, au parquet, on travaille, car l'accusateur public ne dort pas. Les locaux du tribunal sont éclairés durant toute la nuit. Le lampiste, l'enfumé, entretient dans les couloirs et bureaux du palais 220 becs, dont 20 seulement sont éteints à 10 heures du soir. Les 200 autres brûlent jusqu'à l'aube. Dans le silence des hautes salles et des escaliers déserts, Fouquier continue à rôder, furetant dans les dossiers, notant un nom, donnant un ordre aux commis fourbus. Et par moments, un dégoût l'oppresse. Il se plaint de succomber à la tâche. Il confie à la buffetière qu'il est las de ses fonctions. Depuis le 22 prairial, il n'y a pas de répit. Il aimerait mieux labourer la terre. Et sans doute, en parlant ainsi, revoyait-il dans le grand lointain les champs d'Hérouël et la ferme paternelle où la vie était si ordonnée et si digne. Quand il allait naguère aux Jacobins, la foule et le bruit l'empêchaient de penser. Maintenant, le temps lui manque. Il faut que chaque soir il se rende aux Tuileries afin de prendre les ordres des comités de la Convention. Il quitte le palais vers 10 heures, toujours escorté d'un ou de deux gendarmes. Bien qu'il ait maintenant voiture, il préfère marcher et n'emploie que très rarement François, le cocher du tribunal. La fatigue pourtant est telle qu'il a des hallucinations. Un soir qu'il passe sur le pont Neuf, encadré de ses deux soldats et suivi de Sénard, employé au comité de sûreté générale, il s'arrête prêt à s'évanouir. « Je ne suis pas bien, gémit-il, je crois voir les ombres des morts qui me poursuivent, surtout celles des patriotes que j'ai fait guillotiner. » Le Sénard essaye de profiter de ce malaise pour risquer quelques observations, mais déjà Fouquier s'est ressaisi. Il traite son compagnon d'indulgent et le menace. « J'aurai besoin de toi. Plus tard, sous le guichet des Tuileries, il aperçoit trois hommes mal vêtus qui semblent embusqués le long d'un mur. Si j'avais été seul, dit-il, il me serait arrivé quelque malheur. Au comité de salut public, là aussi on veille jusqu'au jour, l'accusateur public est reçu, privilège unique, dans la salle même des séances, la salle à deux colonnes qui a été la chambre de la reine. Depuis un arrêté de 24 et 25 Floréales, c'est le comité qui discute et rédige la liste des accusés. La loi du 22 Prairial a rendu à l'accusateur public le droit de traduire directement, lui donnant en cela un pouvoir égal à celui de la Convention elle-même. Néanmoins, le comité fournit une liste, mais il est permis à Fouquier de faire le plein, c'est-à-dire de remplacer par un autre accusé celui qui, porté sur la liste du comité, manquerait à l'appel pour une raison quelconque. Une pas facile de découvrir dans les 20 ou 25 maisons d'arrêt de Paris, parmi les 8 à 10 000 suspects qui s'y trouvent entassés, un prévenu distingué par le comité. La recherche occupe plusieurs jours. Heureusement, la conciergerie est là, où l'on peut puiser pour faire nombre. C'est ce qui explique qu'un jour, quelqu'un racontant avoir vu la veille à la prison des oiseaux la ci-devant princesse de Chimay qu'on croyait émigrée, « Aux oiseaux !» s'écrie Fouquier, « il y a 3 mois que je la cherche !» Et la princesse est guillotinée. Du comité de salut public, Fouquier passe au comité de sûreté générale, car si le premier lui a remis des noms, le second lui fournit des éléments d'accusation. C'est là, en effet, que, depuis le 17 octobre 1792, s'accumulent les dénonciations émanées de tous les points de la France. 100 000 suspects, et plus peut-être, y ont leur dossier, et cet innombrable répertoire est une mine qu'il est indispensable d'exploiter. S'il faut en croire Fouquier-Tinville, ses entrevues avec les membres du comité de sûreté générale n'ont rien eu que de correct et d'administratif. Mais une nuit qu'on l'y attend à 1 heure du matin, il arrive, fort ému et très en retard, se plaignant d'avoir été maltraité dans un corps de garde. Un détenu de la force, Ferrière Sauveboeuf, est là, où on l'a amené de sa prison pour l'interroger. Il voit Fouquier entrer dans un cabinet voisin de la salle où lui, Ferrière, est gardé par un gendarme, et il l'entend dire « J'en ai aujourd'hui 39 qui vont à la barrière renversée pour les complots de Bicêtre. Demain, j'en mettrai 60. » Et des voix s'exclament « Bravo !» Sur quoi on appelle Ferrière Sauveboeuf, on lui annonce qu'il va être reconduit à la prison de la force, et Fouquier, l'interpellant, « Tu devrais, insinue-t-il, nous faire connaître les complots de la force. » C'était l'époque où l'on venait d'entreprendre les prétendues conspirations des prisons, d'où résultèrent de si terribles hécatombes. « Allons, tu les connais, ces complots, » disent à Sauveboeuf les membres du comité. Comme il se défend d'en rien savoir, l'un des conventionnels insiste. « Tiens, il y a une chose toute simple, tu es un ci-devant, tu connais donc tous les ci-devants, ils sont tous contre-révolutionnaires. Par conséquent, ou tu les fréquentes, et alors tu dois être leur complice, ou tu le fuis, et dans ce cas, tu dois nous dire pourquoi. » Malgré cette menace insidieuse, le prisonnier persiste à ne rien révéler. On le voit, Fouquier n'hésite pas, du moins quand il est en présence de ses chefs, à se tailler lui-même de la besogne. Il ne marchande pas sa peine. À 2 ou 3 heures du matin seulement, souvent plus tard, quand il fait grand jour, il regagne, toujours accompagné de ses gendarmes, la maison de justice. Ses scribes travaillent encore. Il ne prend pas le temps de monter à son logement de la Tournelle, où dorment sa femme et ses 2 enfants jumeaux. Il s'étend tout habillé sur un matelas, jeté dans son cabinet. Il y reste 2 ou 3 heures, essayant de sommeiller. Mais au petit jour, Dansel, le balayeur du tribunal, le réveille, et l'écrasant labeur recommence. Un seul sentiment semblait rattacher Fouquier-Tinville à l'humanité, celui de la confraternité avec ses anciens camarades de la Société des procureurs. Il en avait sauvé 2, Lot et Berthereau, dont un comité révolutionnaire avait ordonné l'arrestation. Berthereau avait rendu à Fouquier, lorsque celui-ci était à ses débuts, d'importants services. Il était l'oncle de Lot. Au plus fort de la terreur, alors que 30 ou 40 têtes tombaient journellement, Berthereau, qui n'avait plus d'autre souci que celui de se faire oublier, se promenait un jour mélancoliquement sur le port au blé. Il vit venir à lui, dans ce lieu désert, l'accusateur public, qui errait, le front soucieux, l'œil aux aguets. Berthereau s'efforce de l'éviter, mais Fouquier-Tinville l'aborde et la conversation s'engage. Fouquier, toi qui fus un homme de loi, peux-tu concevoir qu'on juge 100 personnes par jour? Ne m'en parle pas, réplique Fouquier en portant ses mains à son front. Ces bougres-là veulent me perdre. Mais ils ne me tiennent pas encore. Il n'est pas tombé sur l'échafaud une seule tête que je n'en ai un ordre écrit. Eh, comment obéis-tu à de pareils ordres? Si une de ces têtes-là ne fût pas tombée, c'eût été la mienne qui eût roulé sur l'échafaud. Mais j'ai tous les ordres signés du comité, bien en règle dans mes cartons. S'ils me font un jour un procès, je les entraînerai tous avec moi. Je ne périrai pas seul. Fouquier mentait d'ailleurs. Il n'avait pas dans ses cartons tous les ordres signés. Mais c'était l'excuse qu'il alléguait auprès de ses anciens collègues, non point pour se laver du sang versé, mais plutôt pour parer, en quelque façon, au discrédit qui pourrait rejaillir sur lui, ancien homme de loi, du mépris des procédures et de la suppression des formes judiciaires. Scrupule d'autant plus singulier qu'il subsistait seul dans cette âme dévoyée. Il conservait quelques relations avec un autre procureur, Bligny, celui-là même auquel, 10 ans auparavant, il avait cédé sa charge. Bligny allait voir parfois Fouquier dans son cabinet au palais. Il entrait là comme un belluaire dans la fosse d'un tigre. S'il consentait à s'y risquer, c'était dans l'espoir de sauver quelques vies humaines. Il causait familièrement avec son redoutable confrère, lui parlait de sa famille, de ses enfants, évoquant les vieux souvenirs du Châtelet, certain d'intéresser ainsi Fouquier, qui s'en montrait toujours friand. Bligny glissait alors le nom du malheureux qu'il désirait arracher à la mort. Mais l'accusateur public résistait. J'ai des ordres, disait-il. L'autre revenait à la charge. Voyons, Fouquier, fais cela pour moi, un vieux camarade, le seul de tous les anciens du Châtelet qui ait conservé des relations avec toi. Et Fouquier faiblissait parfois. Il sortait le dossier, le mettait à l'écart et renvoyait Bligny en bougonnant. Il eut un jour l'audace. Mais l'anecdote est si pittoresque qu'elle perdrait à ne point être citée dans son texte original. La voici telle qu'elle fut écrite d'après les souvenirs de ceux-là même qui furent, bien malgré eux, les témoins de ce fait étrange. Avant la Révolution de 1789, il existait déjà, depuis plusieurs années, une société composée des procureurs au Châtelet de Paris qui se réunissait à un jour donné de chaque mois pour dîner chez un restaurateur. Cette réunion était connue sous le nom de Société du Châtelet. Le nombre de ses membres était de 20 à 24. Lorsqu'une place devenait vacante, on proposait le procureur qui désirait entrer dans la société, et le mois suivant, il était admis si, dans l'intervalle, il ne s'était manifesté aucune opposition. La suppression du Châtelet, les premiers orages de la Révolution, les événements de 1791 et de 1792, le règne de la Terreur même, ne suspendirent pas la réunion mensuelle de la Société du Châtelet. Un jour de l'année 1794, la Société du Châtelet était réunie chez le traiteur Legac. L'entrée de ce restaurant se trouvait sur l'emplacement actuel de la rue de Rivoli, en face de la rue du Dauphin. Les fenêtres du côté opposé s'ouvraient sur la terrasse des Feuillants. Les membres de la société venaient de se mettre à table lorsque un garçon de service ouvre la porte et place un couvert. À l'instant paraît Fouquier-Tinville. Tous les convives sont frappés de stupeur. Il est déjà tard, dit Fouquier. Je n'avais pas dîné, je me suis rappelé que c'était votre jour de réunion, et j'ai pensé à vous demander à dîner. Un silence glacial est la seule réponse, et les deux voisins de Fouquier s'écartent de lui. Ah, il paraît que je vous gêne, je suis de trop ici. Même silence. Il y avait dans le regard des convives et dans leur mutisme solennel quelque chose de si énergiquement réprobatif que Fouquier, comme s'il eût été provoqué par son juge, se sentit obligé de se défendre. Voyons, dit-il, qu'avez-vous à me reprocher? Nul de vous n'a à se plaindre de moi. C'est moi plutôt qui aurais à me plaindre de vous. J'étais votre confrère, vous m'avez renvoyé et forcé de vendre ma charge. J'étais sans ressources, la révolution a éclaté, et je m'y suis jeté sans prévoir où cela me conduirait. Plus tard, on m'a nommé accusateur public, et j'ai accepté avec la même imprévoyance. J'aurais dû sortir de là. Le courage m'a manqué, il n'était plus temps. Il s'arrête, sa voix tremble, il pleure. Alors toutes ces bouches, muettes jusque-là, font explosion. Un concert de malédictions s'élève contre lui. on lui reproche la mort des malheureux que chaque jour il envoie du tribunal à l'échafaud. Il essaie quelques explications, mais les interpellations partent de tous côtés. Les noms des plus illustres victimes lui sont jetés à la face. « Et monsieur Engrandalleray, lui crie une voix, « monsieur Engrandalleray, qui t'avait protégé si longtemps, qui, dans sa trop grande bonté, te soutenait contre tes confrères lorsqu'ils voulaient te chasser de leur sein, celui-là aussi tu l'as assassiné. « J'ai voulu le sauver, s'écria Fouquier, et il m'a repoussé. » Mais à ce nom d'un magistrat qui avait laissé parmi les hommes de palais la mémoire la plus chère et la plus vénérée, les imprécations redoublent. Monsieur de Vauvert, emporté par un mouvement d'indignation furieuse, d'une main prend Fouquier-Tinville au collet, et de l'autre, saisissant un couteau, « Je veux délivrer la France d'un monstre tel que toi !» On se précipite sur monsieur de Vauvert et on le désarme. À cette scène violente succède le silence glacial qui l'avait précédé. Quelques minutes se passent. Puis Fouquier se lève et dit en se retirant, « Pardonnez-moi d'avoir troublé votre réunion, j'ai eu tort de venir ici. » À peine fut-il sorti que chacun, tremblant pour monsieur de Vauvert, le supplia de veiller à sa sûreté et l'engagea à ne pas coucher chez lui. Mais monsieur de Vauvert, sous des manières simples, cachait un caractère ferme et énergique. « Fouquier, dit-il, n'osera pas me faire arrêter. » Et il refusa de quitter son domicile. Ni monsieur de Vauvert, ni les autres membres de la Société du Châtelet ne furent inquiétés. Peut-être le faut-il attribuer à un reste de cet esprit de confraternité qui, dans l'ancien barreau surtout, exerçait une puissance singulière. En 1806, la Société du Châtelet comptait encore dans son sein monsieur de Vauvert et plusieurs témoins de la scène que nous venons de raconter, c'est de leur bouche que les détails en furent alors recueillis. Pourtant, quelqu'un avait envié la place de ce paria. Dumas a cabalé pour se faire nommer accusateur public. Fouquier, avisé, obtint pour Dumas la présidence, et depuis lors, les deux compères restèrent en apparence très unis. Au fond, ils étaient des ennemis mortels. C'est Fouquier, maintenant, dont le comité de salle publique cherche à se débarrasser. L'accusateur prend cependant bien de la peine. Chaque jour accroît son souci. La conciergerie ne suffisant plus à lui fournir des victimes, on lui a concédé les immenses collèges du Plessis et Louis-le-Grand, rue Jacques, où il entasse des prisonniers et qu'on appelle le magasin de Fouquier. Il possède l'archevêché, devenu l'hospice national du tribunal révolutionnaire. Malgré ses annexes, la place manque encore. Il lui faut une nouvelle prison, et l'on a fait choix de l'ancien collège des Quatre Nations, dont il hâte les travaux d'aménagement. Pourtant de justiciables, les salles d'audience sont bien étroites. Dumas rêverait, a-t-on dit, de transformer la salle des Pas-Perdus en un colossal prétoire, où l'on pourrait juger à la fois, en feu de fil, c'est son mot, 300 accusés. Mais le temps fait défaut et l'on se contente d'agrandir démesurément les gradins de la grande chambre. Pour satisfaire aux commandes, il faut que redouble d'activité les employés de cette manufacture nationale d'assassinats. Danton avait coutume de dire que, en révolution, il faut bâcler et non régler. On bâcle donc. Les actes d'accusation, simples formules toujours les mêmes, sont remis incomplets au secrétaire du parquet qui les copie par morceaux. Souvent, à 8 heures et même à 9 heures du soir, ils ne les ont pas encore. Il leur arrive d'être si pressés qu'ils ne peuvent prendre les noms des prévenus laissés en blanc sur les minutes qu'au moment de l'ouverture de l'audience dans le bureau des huissiers. Ordinairement, on attend pour remplir ces blancs qu'on ait découvert les accusés dans les diverses prisons. On a un homme payé pour les rechercher et à mesure qu'on les retrouve, on remplit leur nom dans les actes. Un jour, on avait mis en jugement, sur l'ordre du comité, 158 prévenus. L'acte d'accusation était dressé. Fouquier, contrairement à ce que pensait Dumas, estima que c'était trop. On divisa donc la fournée en 3, dont la première fut de 60. L'affaire alla si vite que Anne Ducret, le commis greffier, n'eut pas le temps de recopier la pièce, et les juges signèrent ainsi l'arrêt de mort de 158 personnes, dont 60 seulement avaient été jugées. La nuit suivante, on bâtonna sur l'acte les noms qui n'y devaient pas figurer. 60 le 10 Messidor, 50 le 21, 46 le 22. Ces chiffres semblent maintenant normaux. Outre les grandes fournées et les conspirations de prison, on juge des isolés, des petits groupes de 7, de 10, de 12 condamnés. Des misères, dit le juré Vilatte. Dumas, souvent ivre, ne pose à chacun qu'une seule question, celle de son nom. Il siège en furieux, ayant sur sa table deux pistolets, car il a peur. Chez lui, rue de Seine, il vit tapis avec sa femme et son enfant. Sa porte est percée d'un Judas, au moyen duquel il observe les visiteurs. Coffinhal, le vice-président, s'enivre également. Il va boire chez Morizan et au cabaret. Sous la direction de ces deux hommes, les débats simplifiés, comme on l'a vu, allégés des interrogatoires, de l'audition des témoins, des plaidoiries, sont devenus une des formalités de l'exécution, une sorte de première toilette qui n'a même pas pour résultat d'assurer l'identité des condamnés. Et chaque jour, sauf le décanis, l'usine de Fouquier fonctionne de la sorte. Le public, fidèle au spectacle, s'en désintéresse, tant la chose est écourtée. Il n'applaudit plus aux condamnations. En revanche, il manifeste hautement sa joie et sa satisfaction quand survient par hasard un verdict d'acquittement. Les amateurs d'émotions fortes préfèrent à ces audiences, toujours les mêmes, le chargement des charrettes qui, bien avant midi, attendent dans la cour du mai. La guillotine a ses habitués, ses enthousiastes, ses dévots. On connaît le mot du conventionnel amarre. Allons au pied du grand autel voir célébrer la messe rouge. Allusion aux cérémonies de jadis, alors que, le lendemain de la Saint-Martin, les cours du Parlement, en grand costume, assistaient à l'office de réouverture devant la chapelle des procureurs dans la salle des Pas-Perdus. Fouquier, resté l'homme des traditions, s'offrit une de ces fêtes lors de l'exécution des 54 accusés de tentatives criminelles sur Collot d'Herbois et sur Robespierre. Le jugement n'avait pas été prononcé que les condamnés seraient revêtus de la chemise rouge des assassins. L'accusateur public exigea néanmoins qu'on procédât à leur travestissement. Il fallut attendre longtemps avant qu'on pût se procurer, dans les magasins du voisinage, assez d'étoffes pour en revêtir toutes les victimes. Encore se contenta-t-on d'une bigarrure, et c'est de coupons de serge amarante ou d'autres nuances du rouge qu'on enroula les moribonds au moment de les hisser sur les charrettes. Ce qui rendait les audiences monotones, c'est que, depuis les amalgames, la sentence était prononcée en l'absence des accusés. L'interrogatoire terminé, le président clôturait les débats et l'on reconduisait les comparants à la conciergerie, où les huissiers venaient donner lecture du jugement. Cette innovation supprimait les chances d'incidents. L'aspect des immenses gradins, qui occupaient maintenant tout un côté de la grande chambre et s'élevaient jusqu'à la corniche du plafond, n'en était pas moins épouvantable, tant en raison de la stupeur résignée de ceux qui y figuraient que par l'étonnante diversité de leur âge et de leurs conditions. Le premier thermidor, c'est Saint-Perne, un enfant de 17 ans, appelé au tribunal par erreur et qui n'est pas compris dans l'acte d'accusation, mais qui n'en est pas moins condamné à mort. Pendant le réquisitoire, il tient la main du gendarme placé près de lui pour montrer à cet homme qu'il n'a pas peur. C'est le soldat qui retire sa main parce qu'elle tremble. Le 4, on amenait les femmes Noailles, la maréchale qui avait 79 ans et sa fille, la vicomtesse Anne-Dominique. Toutes deux étaient sourdes. Il fallut, pour leur demander leur nom, que le président les fît approcher de son bureau. La maréchale, toute cassée de vieillesse, descendit des gradins au bras d'un gendarme. C'est tout ce qu'elles surent du procès. Un autre septuagénaire, puis des Vérines, ex-maître des comptes, y compris moins encore. Il était non seulement sourd, mais aveugle depuis 3 ans, tombé en enfance, et dans la prison, on s'était vu obligé, par crainte d'infection, de changer le linge plusieurs fois par jour. On eut, dit un témoin, toutes les peines du monde à lui faire entendre ce dont il s'agissait. Quand on crut l'avoir mis au courant, on l'envoya à l'échafaud. Certains jours, on vit rouler des gradins une accusée qui avait le corps et la langue paralysés. Fouquier, à qui on expliquait les causes de sa chute, dit « Ce n'est pas la langue, c'est la tête qu'il nous faut ». Il y avait plus lamentable encore. Bien des femmes, affolées par l'idée de mourir, se déclaraient sur le point d'être mères et obtenaient ainsi un sursis. Les médecins du tribunal décidaient de leur sort. Il leur eût été facile de sauver par un mensonge bien des existences, mais ces gens-là ne mentaient pas.
Eux aussi, sans doute, étaient esclaves de leur impitoyable devoir, et la plupart du temps, leur diagnostic concluait à l'exécution immédiate. Dans certains cas, pourtant, la femme était expédiée à l'hospice de l'évêché en attendant le terme fatal. Pour quelques-unes, ce fut le salut. Thermidor survint avant qu'elles fussent mères, c'est à leur enfant qu'elles furent redevables de la vie. L'une d'elles, Madame de Blamont, condamnée à mort et échappée ainsi à la guillotine, vécut jusqu'en 1870. De toutes les personnes ayant comparu devant le tribunal révolutionnaire, c'est vraisemblablement elle qui disparut la dernière. Quelques-unes avaient été moins chanceuses. Tout autre que Fouquier-Tinville eût oublié ces malheureuses dans leur prison. Sa responsabilité était couverte par le certificat des médecins. Mais il ne perdait pas de vue les futures mamans. Il se faisait rendre compte de leur état et guettait son heure. Hélas, elle sonnait, inéluctable. La fin du siècle de Voltaire connut ces choses monstrueuses. Des femmes voyant approcher dans l'angoisse et dans l'épouvante le moment de la maternité. Il se trouvait des bourreaux pour arracher de leurs bras l'enfant à peine dans ses hanches, et toute chancelante encore, elles étaient traînées à l'échafaud. La terreur atteignit là son apogée. Les collaborateurs de Fouquier, eux-mêmes, quelque blasés qu'ils fussent, bronchaient devant l'horrible besogne. Un jour, l'un d'eux, terrifié, entrant au greffe, osa dire à ses camarades « C'est fini, on ne juge plus, nous y passerons tous, nous sommes tous perdus ». Et l'on vit au parquet un portier de prison, Blanchard, fondant en larmes, déclarant à travers ses sanglots qu'il en avait assez, qu'il démissionnait, qu'il n'était pas fait pour occuper une pareille place et que cela le rendait malade. Le 9 Thermidor, on jugeait à la grande chambre 23 accusés. Madame de Maillet était du nombre, elle aurait dû passer l'avant-veille avec son fils. Le jeune homme fit partie de la fournée, mais quand on appela sa mère au quartier des femmes de la conciergerie, les huissiers se trompèrent et amenèrent au tribunal à sa place une dame Maillet. On reconnut l'erreur et on passa outre. Madame Maillet fut condamnée puisqu'elle était là, et le surlendemain, Madame de Maillet retrouva son tour. En apercevant les gradins sur lesquels s'était assis son fils, un enfant de 17 ans, elle fut prise de convulsions nerveuses si violentes que 4 hommes réussirent avec peine à la maintenir et à l'emporter dans la salle des témoins. Elle resta là, sans soin, exposée au regard des passants, tant que dura l'audience. On ne la reconduisait pas à l'infirmerie parce que le président Cellier attendait qu'un moment de calme permît de la mettre en jugement. Mais la crise fut plus longue que les débats, et il fallut bien renvoyer Madame de Maillet au lendemain. À la salle Saint-Louis, le même jour, autre incident. Dumas préside, entouré des juges-mères de Liège et Félix. Fouquier est à son siège. 24 accusés ont pris place sur les bancs. Vers 3 heures, les agents du comité de salut public se présentent à l'audience et interrompent les débats. Qu'y a-t-il ? Ordre de la Convention d'arrêter le président Dumas. Très pâle, celui-ci se lève de son siège et dit « Je suis perdu ». Dumas, en effet, n'a pas la conscience tranquille. Il sait que depuis 5 jours, on l'a signalé au comité de sûreté générale comme ayant fait acquitter à prix d'argent un accusé traduit au tribunal révolutionnaire. C'est à cette dénonciation que, dans sa pensée, il attribue son arrestation. Il suit les agents qui l'emmènent. Les gens d'alors vivaient dans l'inattendu et dans l'incroyable. Ils y étaient faits. Aussi le départ de Dumas ne causa point d'émoi. Mais reprit sa place au fauteuil et prononça la condamnation de tous les accusés, moins un. Comme Fouquier sortait de l'audience à 3h30, il rencontra dans le corridor l'huissier Simonet. Celui-ci l'avertit qu'on battait la générale dans la rue Saint-Antoine et qu'il y avait peut-être danger à faire sortir les condamnés pour les conduire au supplice. Fouquier, qui était pressé, car il allait dîner à l'île Saint-Louis, répondit que ce n'était rien, qu'il fallait procéder comme à l'ordinaire. Il quittait donc son cabinet, où il avait déposé son manteau d'audience et son chapeau à plumes, quand il fut abordé par Contat, employé au greffe, qu'accompagnait Sanson, l'exécuteur, fort perplexe. Contat, lui encore, représente qu'il y avait des mouvements dans Paris et qu'il serait prudent de remettre au lendemain l'exécution. Fouquier, s'adressant au bourreau, répliqua « Va ton train, il faut que la justice ait son cours ». Puis il s'éloigna. La dernière tête qu'il avait obtenue ce jour-là était celle de la veuve du paralytique aveugle, Puy de Vérines. C'était, depuis un mois, la 1000e que lui accordait le jury. La 1000e.